Comment les sociétés du passé ont-elles géré au fil du temps la santé, la maladie, le handicap, la malnutrition ou les épidémies? Eh bien, l'archéologie et l'anthropologie sont deux disciplines qui sont capables justement d'apporter des réponses à ces questions en éclairant l'état sanitaire des populations au cours de l'histoire. Sur les traces de la santé, c'est une exposition à voir en ce moment au Musée de l'Homme à Paris qui prolonge un colloque qui avait lieu la semaine dernière. Et c'est le dossier de la Tête au Carré dans un instant avec mes invités, l'anthropologue Alain Froment et l'archéologue Hervé Guy. J'attends vos messages, bien sûr, et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Biodiversité et transparence, aujourd'hui à la une de la science.
Oui, parce qu'une nouvelle loi obligera maintenant les aménageurs et les promoteurs immobiliers à rendre publiques leurs données d'études de la biodiversité, une mine d'informations pour les chercheurs que l'on explore avec le biologiste Jean-Philippe Ciblet.
Stéphanie Texier est aux commandes de cette Tête au Carré qui a été préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Archéologie de la santé, ce sera donc le dossier dans quelques minutes avec mes invités, l'anthropologue Alain Froment et l'archéologue Hervé Guy. Bonjour à vous deux.
Bonjour Mathieu.
Hervé Guy, est-ce que le corps humain laisse beaucoup de traces au fil du temps, justement au point de donner donc des informations précieuses aux archéologues?
Oui, tout à fait, il en laisse, mais uniquement sur les os, bien sûr.
Ouais, les os et les dents.
Et les dos, oui, bien sûr.
Les os et les dents.
Les dents étant une sorte d'os.
Alain Froment, est-ce que l'on peut au fil du temps justement constituer des cartes avec les différentes pathologies des populations de la planète? Est-ce que c'est ça aussi un peu l'intérêt?
C'est ça, c'est prendre le squelette comme une archive, puisqu'il va entreposer, enregistrer tous les événements, ce qu'on appelle la bioarchéologie, donc qu'est-ce que les gens mangeaient, qu'est-ce qu'ils avaient comme maladie, qu'est-ce qu'ils avaient comme comportement. Et ça, c'est l'archéologie des squelettes qui peut nous raconter cette histoire.
Et des squelettes, vous en avez beaucoup au Musée de l'Homme, on va voir ça avec vous dans quelques minutes, avec les messages des auditeurs pour découvrir donc ce travail d'archéologie de la santé, avec les messages donc sur le site de la Tête au Carré.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
L'Inventaire national du patrimoine naturel, un organisme qui centralise toutes les données concernant la biodiversité de notre territoire et qui va bientôt voir ses connaissances abondées par les aménageurs et promoteurs immobiliers en tout genre, puisqu'un décret publié la semaine dernière vient de rendre obligatoire la communication des résultats des études d'impact environnementaux. Un pas de plus vers la transparence, et on en parle avec vous Jean-Philippe Ciblet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du service du patrimoine au Muséum national d'histoire naturelle. Et puis dans ce studio, comme tous les lundis, notre confrère Hervé Kempf pour le magazine Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Un mot justement Hervé, avant d'entrer dans le vif du sujet. Une étude d'impact, c'est quoi tout simplement?
Vous savez qu'il y a beaucoup de projets d'aménagement en France. Ça va des déchetteries aux zones commerciales, aux voies de chemin de fer. Chaque année, on en compte 1780 projets qui, dans la majorité, c'est beaucoup, qui dans la majorité des cas ont évidemment un effet sur l'environnement. Et donc, la loi impose que ces projets d'aménagement fassent l'objet d'une étude d'impact. Ça va consister à recourir à un cabinet spécialisé dont l'étude va être financée par le promoteur et qui va faire l'inventaire des espèces floristiques et faunistiques, qui va faire un état des lieux initial de l'environnement. Mais jusqu'à présent, seulement le résultat global de cette étude d'impact était publié, en quelque sorte. Oui. Et en fait, dans plusieurs cas, comme par exemple le célèbre projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, des naturalistes indépendants ont démontré que l'étude d'impact était vraiment très faible, incomplète. Et bien, cette nouvelle loi, le décret qui vient donc de passer la semaine dernière, mettra les données composant l'étude d'impact accessible, si bien qu'on pourra plus vite juger du sérieux de l'étude d'impact, éventuellement la discuter comme il arrive en matière scientifique.
Et puis c'est bon pour la science, justement. Axel.
Jean-Philippe Ciblet, est-ce que c'est vraiment un grand nombre d'abus de la part des bureaux d'études qui a conduit à l'adoption de ce décret?
Je ne pense pas qu'on soit d'ailleurs dans les mêmes problèmes de chronologie que Hervé Kempf vient de l'indiquer, parce que je pense que les données seront disponibles dans l'INPN probablement bien après qu'elles aient été collectées, parce que l'objectif de l'intégration de ces données dans l'INPN, c'est pas forcément d'assurer une surveillance de la qualité de l'étude d'impact. Ça s'est fait en amont par les services de l'État et puis également par les citoyens au moment des enquêtes publiques ou par les associations environnementalistes. Nous, l'objectif de l'intégration de ces données dans l'INPN, c'est justement de renforcer la connaissance globale et de pouvoir tirer des enseignements à une échelle nationale et pas forcément à l'échelle des projets concernés.
On parle de données, mais on parle de quoi exactement? De comptage d'espèces, de mesure de niveau de pollution? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
Alors vous avez parfaitement raison de poser cette question, parce que souvent on se cache derrière un concept un peu général qui est le concept de données, mais qu'est-ce que c'est qu'une donnée ? Pour nous, une donnée, c'est composé de 4 items, un nom d'espèce, mmh. un nom de lieu, une date et un observateur. Voilà ce qui constitue pour nous la donnée et ce que nous gérons. Ensuite, il y a effectivement des informations qui peuvent venir se surajouter à ces données, des traits comportementaux, des données sur le climat, etc. Mais pour l'instant, l'INPN n'a pas en charge de gérer ces informations. Nous, nous gérons une banque de données d'espèces qu'on peut d'ailleurs comparer peu ou prou à une collection. C'est-à-dire que avant on avait des insectes dans des boîtes ou des animaux en pot. Eh bien, nous gérons une collection de données de référence sous une forme virtuelle.
Mais alors, Jean-Philippe Ciblet, ça veut dire que tout d'un coup, là, vous allez avoir une masse d'informations en plus qui va vous parvenir, si je comprends bien, non ?
Absolument. Alors, actuellement, dans l'INPN, on a environ 40 millions d'observations pour à peu près 180 000 espèces qui sont documentées. Il est probable, il est même certain que ces chiffres vont augmenter. Bon, on a cité tout à l'heure le chiffre d'à peu près 2000 études d'impact par an. Si on considère que chaque étude d'impact va générer plusieurs milliers de données, on voit tout de suite que ça peut faire des chiffres conséquents. Donc oui, il va y avoir un flux de données nouvelles qui vont parvenir dans l'INPN et qui vont s'agréger à celles que nous avons déjà pour compléter la connaissance, notamment sur la répartition des espèces et sur leur évolution. Ce qui est vraiment intéressant avec l'outil INPN, c'est non seulement de pouvoir avoir un état zéro, qu'on pourrait considérer comme un état de référence au moment où on consulte le site, mais aussi de pouvoir tracer l'évolution de ces espèces et mesurer leur état de santé.
Hervé Kempf.
Mais est-ce qu'on n'est pas quand même comme dans le cas de l'archéologie, où depuis maintenant de nombreuses années, on doit faire un inventaire archéologique avant la réalisation d'un projet ? Alors c'est très bien, on recueille plein de données archéologiques, mais on fait le projet, on détruit ce qui existe. Est-ce que vous n'allez pas faire l'inventaire d'un monde disparu un petit peu ?
Bah, en partie, mais je dirais chacun son rôle. En tout cas, le fait de pouvoir tracer ces évolutions, c'est aussi un moyen de conscientiser le grand public, de donner des éléments tangibles aux décideurs et de pouvoir finalement les mettre devant leurs responsabilités. Si ce travail n'était pas fait, personne ne serait capable de déterminer si le rythme d'extinction des espèces augmente, si l'état global de la biodiversité se détériore, et du coup, pas de raison de mettre en œuvre des moyens publics pour essayer d'y remédier. Donc, d'une certaine façon, oui, on documente un peu la disparition, quoique tout ne va pas forcément mal partout, mais en même temps, chacun son travail, je dirais.
Oui, puis on va peut-être vous donner des espèces que vous ne connaissiez pas aussi, hein, au hasard des études.
Absolument, tout à fait. On découvre des choses tout à fait étonnantes. Alors, c'est vrai que les études d'impact ne s'intéressent que pour l'essentiel au visible, j'allais dire avec un fort tropisme pour les vertébrés, et puis pour les espèces d'invertébrés, on va s'intéresser à celles qui sont les plus visibles, les papillons, les libellules, les sauterelles. C'est vrai qu'on a encore un pas à franchir pour s'intéresser à la faune du sol, qui est probablement un des secteurs où on peut découvrir le plus d'espèces nouvelles pour la science, mais il est vrai aussi que on découvre aujourd'hui encore pas mal de choses. On est très loin d'avoir une connaissance exhaustive, même si historiquement, cette connaissance n'a jamais été aussi importante.
Alors, puisqu'on a un archéologue en studio aujourd'hui, Hervé Guy, pour rebondir sur ce que disait Hervé Kempf.
Oui, alors moi, d'abord dire que nous, déjà, le diagnostic archéologique, c'est quelque chose que l'on pratique maintenant depuis très longtemps, depuis à peu près 30 ans. On en fait beaucoup, notamment à l'INRAP. Et alors moi, ça me fait un petit peu sourire, cette question de biodiversité par rapport à l'archéologie, puisque c'est une petite anecdote. J'avais organisé un diagnostic, et sur le parcours du diagnostic, on m'avait signalé des chardons. et ces chardons, il fallait les éviter. Ouais. Or, pas très loin de là, 2 ans auparavant, on avait fait aussi un autre diagnostic. Et en fait, il se révèle que les chardons qu'on ne devait absolument pas faire disparaître, en fait, sur nos tranchées de diagnostic, ont réapparu. Parce qu'en fait, les graines étaient très enfouies. Et le fait de faire un diagnostic archéologique, ça fait revivre ces chardons.
Une question pour vous, Jean-Philippe Ciblet. Quels sont les espoirs de recherche avec ce nouveau canal de données qui va s'ouvrir ?
Alors, elles sont nombreuses. Je veux juste rebondir 30 secondes sur ce qui vient d'être dit pour dire que le site de l'INPN, c'est également un site où on trouve des données archéozoologiques et archéobotaniques. C'est d'ailleurs un des rares sites au monde où on a en même temps sur des cartes, on peut faire apparaître une situation ancienne, très ancienne, et une situation actuelle. Alors, Quelles sont les perspectives de recherche? Bah, elles sont extrêmement nombreuses. En particulier, il y en a au moins une que j'identifie qui est à partir de quand peut-on considérer que ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité pour le milieu naturel à se reconstituer et les espèces à perdurer, à partir de quand cette résilience n'est plus possible en termes de déstructuration des habitats, en termes de d'artificialisation des sols, et ça je pense que c'est un problème vraiment extrêmement important. Par ailleurs, il y a un autre secteur qui est de mesurer. Alors bien sûr, on est dans la mesure, on n'est pas dans la remédiation, j'en suis bien conscient, mais quand même de mesurer non pas le nombre d'espèces qui disparaissent, parce que ça on n'est pas vraiment capable de le faire actuellement, parce qu'on ne sait pas d'ailleurs dire si les espèces qui disparaissent sont vraiment disparues. Tracer la disparition d'une espèce, c'est très difficile, et on sait aussi que beaucoup d'espèces qui n'ont pas encore été décrites disparaissent, et c'est peut-être d'ailleurs les plus nombreuses. Mais la question, c'est à quel rythme ces disparitions se produisent, parce que c'est finalement plus la crise de biodiversité dont on parle actuellement, c'est plus un problème de rythme qu'un problème de nombre. Mmh. Et la difficulté, c'est que le rythme est tellement rapide que les espèces qui disparaissent n'ont pas le temps d'être remplacées par d'autres qui viennent occuper les niches écologiques rendues vacantes.
Au sujet de la résilience, peut-être une toute dernière question courte de Hervé Kempf.
Est-ce que on n'a pas tendance, les naturalistes veulent souvent sur ces projets compenser, opérer des compensations. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux quand même éviter de détruire et de réaliser le projet?
Bah absolument, vous avez complètement raison. La doctrine aujourd'hui prônée par l'État dans ce type de problème, c'est éviter, réduire, compenser. Donc il est évident que la chose la plus efficace, j'arrive presque dire la seule vraiment efficace, c'est l'évitement. Ne pas faire de projets destructeurs qui occasionneraient des pertes sèches à la biodiversité. On sait que c'est évidemment extrêmement difficile à obtenir, et de moins en moins d'ailleurs facile, parce que le territoire devient, si je fais une référence à la France métropolitaine, devient compté, il n'y a plus beaucoup d'espace, et donc c'est très très difficile d'éviter. La réduction, ça porte sur des choses qui sont quand même relativement mineurs. On est capable de faire passer des animaux au-dessus d'un autoroute ou en dessous, on est capable de faire un certain nombre de mesures d'atténuation, mais ça reste quand même marginal. Reste la compensation. Le problème de la compensation, c'est qu'elle est souvent mal comprise, c'est-à-dire que compenser une perte à la biodiversité par l'entretien, la protection ou la gestion d'un milieu naturel qui est déjà riche, n'est pas une compensation, puisque finalement la perte sèche, elle va se mesurer à travers la disparition du site qu'on a détruit. On ne peut imaginer qu'il y ait compensation que si on recrée des espaces naturels ou si on restaure des espaces naturels dégradés, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, parce que encore une fois, on a des problèmes de surface. Il y a des études récentes qui montrent que de toute façon, le dispositif aura une limite naturelle qui est la limite de la superficie du territoire. Si on considère, alors c'est un chiffre qu'il faut prendre avec des pincettes, hein. Mm-hmm. Mais si on considère qu'un département français disparaît sous l'artificialisation tous les 10 ans, 15 ans, même 20 ans, si on veut prendre des marges, on voit bien que les espaces qu'il faudrait compenser, on ne sait pas où on va les trouver. Et le consentement de certains territoires, comme les territoires agricoles, à servir de lieu de compensation pour la biodiversité devient de moins en moins important.
Donc, allez, on arrête là.
Un vrai sujet
on arrête là.
Qu'il va falloir traiter.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Sublet. Merci pour votre éclairage. Et puis, on peut retrouver des informations sur le site reporter.net. Hervé Kempf, merci beaucoup, Axel. À demain.
Merci, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'humanité pèse 30 000 milliards de tonnes. Voici l'estimation du poids de l'ensemble des productions humaines de l'histoire faites par une équipe internationale. Cette masse représente 50 kilos de matière par mètre carré terrestre, partie intégrante des études actuelles menées sur l'entrée dans l'Anthropocène. Et bien, ce résultat est un moyen original de représenter l'impact de l'humain sur sa planète. Les auteurs estiment que le nombre de technofossiles actuels, c'est-à-dire les objets produits par l'homme et enfouis sous terre, dépasse le milliard, soit bien plus que le nombre d'espèces vivantes sur Terre. Quatre nouveaux éléments du tableau périodique gagnent officiellement un nom. Il est souvent long et compliqué de nommer des éléments chimiques fraîchement découverts. Et bien, l'Union internationale de physique pure et appliquée vient pourtant de valider une proposition faite en juin dernier. pour les éléments 113, 115, 117 et 118, qui seront donc officiellement le Nihonium, qui signifie la terre du soleil levant en japonais, le Moscovium pour Moscou, la Ténécine en hommage à l'État américain et l'Oganesson en référence au professeur russe Yuri Oganessian. Et puis une faille gigantesque en train de s'ouvrir dans la banquise de l'Antarctique au sud de l'Argentine. Une photo publiée samedi par la NASA montre cette cassure impressionnante, large de 90 mètres et longue de 110 km, profonde comme la banquise de 500 mètres. Cette fracture, une fois parvenue jusqu'à la mer, détachera justement un iceberg de la taille de la Savoie. La rupture prévue dans la prochaine décennie sera la troisième plus grosse jamais enregistrée. La photo du gouffre est à voir sur le Facebook de l'émission. Allez, Archéologie de la Santé, c'est dans un instant le dossier d'émission.
À cause d'un pouvoir de faire rimer n'importe quoi, je fais gaffe à ne pas devenir un vieux porte-voix. Je pense à mon porte-avions. Ils aiment les grosses voitures. Mon ambition, c'est le bonheur sous bonne toiture. Un pour la poire de mes fans. Deux pour ma pomme. T'as le choix pour faire une tarte. Oui, je déconne. La plume est incroyable. Elle rivalise la vie. Dès que je pose un stylo, on analyse la mine. En une chanson, l'émotion multipliée. Et si t'es fan, fan du cul, clique, oui, tu cliques. Prends un bouquin, ça t'occupera. Moi, je suis quelqu'un en personne. Oui, je suis le rap. Oui, je. Oui, c'est moi. Oui, je. Oxmo, cappuccino, quel jeu de mots tout pourri. J'écris des brevets pour poètes secouristes. Mise à l'amende sur mélodiste hispaniche. Tu vas grogner donc je te sors mille caniches. Oui j'insiste, Louis a dépassé l'odorat. T'as vu, oui je frime. M'en fous de ce texte mais Jean-Pierre Sec m'a dit le jette pas au nom de ta première cassette. Écrire en double car la moitié en grosse l'état. Couvrir le monde comme Mondos l'état. Ancien tel un reptile au sang chaud. Chapeau mexicain de Mike sous le poncho. Car si le public n'est pas heureux d'être ici, plus tu chantes, plus tes textes rétrécissent. Comme un bon breton. Ce soir mon tourbus décolle et ouais je suis content. Monte pas trop le jean, gèle ta crête. Mon nouveau son est de sortie, ta belle s'apprête. Avocat pour auteur, interprète. Je les protège des mauvais traitements de texte. Mon araignée dans la pauvreté, pas la délinquance. Je le martèle car c'est ainsi que tous les vilains pensent. Espèce d'enfoiré de tes cheveux. Les cons osent tout, je compose avec ma voix, je fais ce que je veux. La classe d'un short parmi lui dressing. Y'a de la rafale de côté, oui je précise.
C'était Oxmo Puccino.
La tête au carré sur France Inter.
Archéologie de la santé, c'est donc le dossier cet après-midi de la tête au carré pour découvrir finalement une discipline qu'on connaît mal et comment justement l'archéologie et l'anthropologie nous renseignent sur les pathologies du passé. C'est l'objet d'une exposition sur les traces de la santé qui est proposée jusqu'en avril prochain au Musée de l'Homme à Paris. Et pour en parler et répondre à toutes vos questions, Alain Froment, chercheur à l'IRD, anthropologue, docteur en médecine, en anthropologie biologique, ancien responsable scientifique des collections d'anthropologie du Musée de l'Homme. Et puis Hervé Guy, vous êtes archéologue, anthropologue et directeur adjoint et technique à l'INRAP Méditerranée. Vous êtes chargé de la région PACA. Alain Froment, donc la semaine dernière, l'INRAP et le Musée de l'Homme organisaient un colloque. Hein, c'est donc le prolongement aussi, cette exposition sur l'archéologie de la santé et l'anthropologie du soin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'était une réflexion au fond sur les sociétés du passé et la façon dont elles ont mis en place des politiques de santé et de soins. C'était ça un petit peu discuté autour de cette thématique?
Voilà, ce qu'on ne voulait pas faire déjà, c'était un colloque de paléopathologie, c'est-à-dire un catalogue de maladies qu'on peut lire sur le squelette. Évidemment, ça sert la médecine, puisque ce sont des maladies qui ont évolué dans une époque où on les soignait peu, donc elles atteignent des formes extrêmes. Mais là, ce qu'on voulait relever comme défi, c'est d'atteindre, à travers la façon, non seulement dont les gens ont été malades, mais à travers les soins qui leur ont été prodigués, faire une espèce d'archéosociologie de l'empathie, voir en fait comment la solidarité s'organisait dans les sociétés du passé.
Ça, c'est étonnant parce qu'on se dit l'archéologie et l'empathie, on est vraiment sur deux domaines qui sont très éloignés. Comment est-ce qu'on peut définir de l'empathie à travers justement des fouilles ?
Eh bien justement, parce que dès qu'on a affaire aux restes humains, on a affaire donc à des cadavres, et je parle aussi des momies, et donc effectivement, c'est une approche tout à fait direct finalement, à travers la médecine, de ce qu'ont pu être les relations entre les soignés et les soignants.
Ouais. Hervé Guy, c'est une nouvelle façon justement de récolter des informations sur ce thème de la santé au cours du temps ?
On va dire que c'est une nouvelle façon de l'aborder, c'est-à-dire que effectivement la santé avant était, on va dire, réservée à ces médecins qui s'intéressaient aussi à la paléopathologie. Là, dans ce colloque, on a essayé de réunir un certain nombre de disciplines, de l'histoire, de l'éthologie, des médecins évidemment, des archéologues, pour effectivement réfléchir à cette émergence du soin au sein des humanités.
Oui, alors justement, et on va loin d'ailleurs, parce qu'on remonte jusqu'où quand alors, on fait cette recherche.
On peut dire qu'on a la preuve tangible qu'on puisse mettre en avant, date à peu près de 100 000 ans. On est en Israël, à Kavzé, et il s'agit d'un petit néandertalien qui a eu un traumatisme crânien. À la suite de ce traumatisme, il devait être fortement invalide, notamment aphasique, d'après ce que l'on sait. Et donc c'est un enfant qui a vécu jusqu'à l'âge de 8 ans, mais qui a survécu à un traumatisme auquel il a fallu lui apporter du soin pour qu'il puisse continuer à vivre.
Ouais. Et voilà, donc vous êtes capable de retracer toute cette histoire, au fond, Alain Froment, avec simplement cet exemple ?
Oui, c'est en fait la démarche classique en paléopathologie, mais aussi en médecine légale. De quoi est mort quelqu'un et qu'est-ce qui est arrivé entre le moment où il a eu les premiers symptômes qu'on peut lire sur le squelette et le décès?
Ah ben justement, on va prendre un autre exemple. C'est l'histoire d'un homme au néolithique qui a eu un humérus amputé. Et c'est justement l'objet d'un documentaire qu'on écoute tout de suite.
L'homme à l'humérus amputé.
Les archéologues sont souvent confrontés à des sépultures dont il manque des éléments. Les corps sont rarement complets. Dans le cas de cette fouille, le corps était toutefois très bien conservé. La question était, pourquoi manquait-il un morceau ? Avons-nous affaire à une opération chirurgicale néolithique à un amputé ? Les experts ont bien mis en évidence le fait qu'on avait affaire à une amputation, donc une opération chirurgicale, et qui plus est, l'individu a survécu à l'opération. C'est là un élément fondamental pour le néolithique, car on connaissait très très peu d'opérations de ce type. Ces gens ont nécessairement développé tout un panel de moyens pour lutter contre la douleur, contre les infections. Il faut imaginer au sein de ces groupes néolithiques des guérisseurs qui peu à peu vont se doter d'un ensemble de médicaments, d'une véritable pharmacopée, qui vont leur permettre de faire ce type d'opération chirurgicale.
Voilà, et ça c'est la découverte justement en août 2005 de cet homme à Buty-Boulancourt, justement dans la Seine-et-Marne, à 75 km de Paris. Donc on voit comment justement, Alain Froment, on peut retracer une histoire et son environnement à partir d'une pièce à conviction comme celle-là, au fond.
Oui, c'est assez spectaculaire cette amputation. Il faut ligaturer une grosse artère, il faut couper des gros nerfs, donc tout ça, il y a un savoir.
Une maîtrise, au néolithique, donc là, il y a 10 000 ans.
Dans cette époque-là, donc 5 à 8 000 ans, ce sont les trépanations crâniennes, où il y a des gens qui ont parfois des énormes trous dans la boîte crânienne, et ils ont survécu, les parois sont cicatrisées.
Ouais. Hervé Guy.
Tout à fait, oui, effectivement, là on est dans une période un peu plus récente, on va dire on est autour de 4 000 ans avant Jésus-Christ, mais effectivement, moi-même j'ai pu étudier des trépanations, quelque chose de très conséquent, c'est-à-dire de ces 12 cm de diamètre. Ouais. Et on voit que l'os se reconstitue pendant plusieurs mois, c'est-à-dire que vous avez un trou dans la tête de 12 cm et vous arrivez à survivre. Et en plus, ça veut dire aussi que ces chirurgiens-là avaient une connaissance.
C'est ça, il y a une maîtrise du geste,
du geste, dire. Terrible, parce qu'en plus, il faut se dire qu'on faisait ces trépanations en grattant. On grattait l'os avec du silex. Ouais. Donc ça suppose aussi derrière toute une pharmacopée. hein, qui pour permettre de effectivement aux
patients de poursuivre
patients,
ensuite les soins.
Voilà, de poursuivre les soins. Ouais. Donc oui, enfin on a comme ça. Mais tout à l'heure, je voulais si vous permettez,
je voudrais revenir sur
cette histoire de soins. Le soin, c'est quelque chose de fondamental dans la vie de l'humanité, dans la mesure où on le sait maintenant grâce aux sciences cognitives. Sans soins et sans figure d'attachement, hein, que cela va créer, en fait, nous n'aurions pas le verbe, la parole. Et ça, Bruce Tiernik l'a très bien démontré, hein, et notamment, c'est ce qui arrive avec, quand vous savez, quand Ceausescu a été renversé, on a retrouvé ces orphelinats en Roumanie, où des enfants étaient
délaissés,
privés de soins, d'affect, et en fait, ne savaient pas parler, marchaient à quatre pattes, étaient complètement déshumanisés. Donc le soin humanise.
Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec Boris Cyrulnik autour de l'empathie, évidemment, et c'est la raison pour laquelle, précisément, on est capable, comme vous l'avez fait au colloque, de pouvoir étayer ses propos autour de l'empathie, Alain Froment. Hein.
Alors, évidemment, c'est un concept abstrait, ouais, mais en lisant, finalement, l'architecture des cimetières, l'architecture des squelettes eux-mêmes, on peut arriver à toucher à cet idéal abstrait. Et puis, on a invité aussi des primatologues qui nous ont parlé des soins chez nos cousins
prodigués
chimpanzés.
Chez les primates.
Et le débat, notamment, c'était de savoir si un chimpanzé s'est prouvé peut se soigner lui-même, prendre des plantes médicinales, mais peut-il soigner quelqu'un d'autre?
Et alors, la réponse,
c'est impossible. C'est trop compliqué parce que c'est une chaîne opératoire complexe où il faut aussi de la confiance. Les sociétés de primates non humains ne sont pas équipées pour ça.
Ouais.
Et puis, il y avait évidemment l'obstacle de la parole. Ce qui nous fait humains, c'est aussi la parole. Et donc, le chimpanzé va avoir du mal à exprimer des symptômes.
Ouais. C'est la primatologue et vétérinaire Sabrina Krief, par exemple, hein, qui travaille justement sur la pharmacopée des grands singes. Elle n'a jamais donc observé de singes parce qu'ils se soignent, hein, évidemment, eux-mêmes, en avalant des feuilles, par exemple, pour nettoyer les vers intestinaux. Mais on n'a jamais vu de chimpanzé donner ce remède à un autre singe.
Voilà.
Parce que là, ce serait une grande première.
Ça serait une grande première, mais elle observe ça depuis des années. Sabrina est une collègue très proche, hein, du Musée de l'Homme. Et donc, déjà, ces observations-là sont quand même révolutionnaires, parce qu'on ne voyait pas les chimpanzés.
Absolument.
Comme ça.
Christine demande, est-ce qu'on sait faire de l'archéologie de la santé mentale des peuples? Pour étayer ma question, dit-elle, on juge du degré de civilisation d'une société à la façon dont elle traite ses fous, pour citer Lucien Bonafé, psychiatre, repris par Christine dans ce message. Hervé Guy, est-ce que vous souhaitez lui répondre?
Oui, on peut.
Archéologie de la santé mentale.
Ouais. Effectivement, pour nous, c'est très difficile parce que nous archéologues et paléo-anthropologues, on travaille sur de la matière. Et donc, effectivement, faire de la santé, parler de la santé mentale des gens, ça nous ferait partir dans des digressions parfois limites.
Que vous ne vous autorisez pas, alors,
exactement.
Si je comprends bien. Alain Froment,
oui,
l'anthropologue a-t-il d'autres réponses?
Pour la santé mentale, c'est effectivement très abstrait. Mais en tout cas, le handicap, quel qu'il soit, lui, il est identifiable sur les squelettes et éprouve quand même des prises en charge.
Allez, on se retrouve dans un instant avec la suite des questions. Franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. 1, 2.
Majafala, Majafala, Majafala,
Majafala,
Majafala, Majafala, Majafala, Majafala,
Majafala,
Malombo no po aidi ututo e o
Majafala,
Afonbo zeno haye we
Majafala,
Mawai ba mereti o
Majafala,
Aide ronbo zeno impesu.
L'orchestre Polyrythmo de Cotonou, à l'instant sur France Inter, et Thierry Dupin pour la programmation musicale de La Tête au Carré. Mes invités, Alain Froment, anthropologue, et Hervé Guy, archéologue, pour nous parler justement de cette exposition sur les traces de la santé, à voir en ce moment au Musée de l'Homme. Alain Froment, qu'est-ce qu'on y voit? Alors, on parlait tout à l'heure de trépanation et d'amputation. Si on a envie de se précipiter au Musée de l'Homme pour voir toutes ces belles choses, qu'est-ce qu'on verra d'autre?
Alors, le Musée de l'Homme n'est pas un musée de médecine, mais il a un espace qui est consacré à l'actualité et donc à tout ce qui se passe dans le musée, y compris ce colloque. Donc, on y expose d'abord des instruments de chirurgie. Par exemple, les ophtalmologues romains opéraient la cataracte, pouvaient ouvrir l'œil. Donc, ils avaient des petites boîtes d'ophtalmologie. Ouais. On montre des squelettes qui sont atteints de pathologies. Alors, vous pouvez en fait scanner un squelette et puis cliquer sur telle ou telle partie du corps. Et là, vous aurez en 3D des pathologies qu'on voit sur l'os, assez spectaculaires, des tuberculoses, des syphilis, etc.
Magnifique.
Des métastases osseuses. Tout ça en 3D. Il y a des mandibules avec des caries, avec de l'abrasion, enfin tout ce qui est soins dentaires dans les sociétés du passé. Et puis il y a le moulage d'un bras d'homme de Néandertal qui a été trouvé il n'y a pas longtemps en Normandie, bras et avant-bras, qui est porteur de crêtes osseuses très très marquées, qui sont en rapport avec la façon dont vous sollicitez certains muscles, quand vous faites certains gestes. Et notamment là, on l'a relié au fait de lancer un épieu. Et de le lancer de façon répétée. Donc, les muscles sollicités vont tirer sur leur insertion osseuse et développer des crêtes.
Donc là, c'est encore un exemple de la façon dont on peut imaginer l'histoire d'un homme.
C'est-à-dire qu'au-delà des maladies, ce qu'on appelle les anthésopathies, ça permet aussi de reconstituer des gestes.
Alors, vous avez aussi, beaucoup plus proche de nous, le poignet d'un contemporain atteint du syndrome de la souris. Donc ça, c'est lié à l'ordinateur. C'est ce qu'on pourrait voir aujourd'hui, les pathologies liées à nos technologies modernes.
Alors, elles échappent à l'archéologie, non seulement parce qu'on ne voit pas encore dans les populations du passé, mais aussi parce que ça affecte le carpe, c'est le syndrome du canal carpien, tout simplement. Ouais. Mais c'est la même idée, c'est-à-dire que vous sollicitez par un geste une articulation qui n'a pas été développée et conçue pour ça, et donc ça développe une irritation et finalement une sanction chirurgicale.
Bon, Hervé Guy, ça c'est de l'archéologie quasiment du futur déjà, c'est ce qu'on pourra découvrir dans les décennies et les siècles à venir.
Tout à fait, on verra bien. En tout cas, moi je voulais aussi préciser qu'au Musée de l'Homme, il y a au niveau de l'exposition, cette fois-ci, afin de l'exposition, il y a aussi toute une vitrine où on parle de langue augmentée justement et de toutes ces prothèses et de l'histoire des prothèses
qui
nous prolonge exactement.
Ouais. On va écouter un autre extrait, celui concernant le squelette à la dent de fer. Alors ça, c'est une autre histoire. En mai 2009, le chêne à 35 km de Troyes, des archéologues justement découvrent un squelette d'apparence inhabituelle. Dans sa mâchoire est incrustée une dent de fer. Voici justement les hypothèses des experts.
Le squelette à la dent de fer.
La fouille de ce petit ensemble de tombes montre immédiatement, grâce aux objets découverts, qu'on se place au 3e siècle avant Jésus-Christ, en plein milieu du second âge du fer. Comme souvent, malheureusement, les os sont très mal conservés, parce que le sol finit par dissoudre la matière osseuse. Mais les dents restent préservées, ce qui est fréquent, parce que les mailles dentaires se conservent beaucoup mieux que les os eux-mêmes. Et que voit-on dans cette sépulture? Donc les dents conservées, il n'y en a pas 32, mais il y en a 31. Il en manque une. Et à la place de la dent manquante, qui est une incisive de la mâchoire supérieure, un petit bout de fer. Donc là, évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on n'aurait pas affaire à une prothèse dentaire? Alors, c'est tout à fait étrange, parce que les prothèses dentaires, à l'âge du fer, chez les Gaulois, c'est complètement inconnu. Mais ça reste tout à fait exceptionnel dans ce contexte, il y a 2200, 2300 ans.
Alors voilà, il y a plein de questions évidemment qui se posent. Alors, le squelette serait celui d'une femme, et il est même évoqué la possibilité que ce soit une prothèse esthétique, tout simplement, un infrement. On peut extrapoler sur plein de choses, non?
Oui, le soin dentaire, c'est aussi quelque chose d'important, parce que les douleurs dentaires sont extrêmement pénibles,
ouais.
Et là, il faut des interventions. Alors, on a déjà un exemple un exemple préhistorique du néolithique aussi, d'une dent qui a été forée, au silex, une dent cariée qui a été traitée. On a plusieurs exemples de prothèses en Égypte, effectivement, dans les périodes gallo-romaines, au Moyen-Âge, et souvent, oui, c'est davantage esthétique que fonctionnel, parce qu'une prothèse, il faut qu'elle soit enracinée dans l'os pour tenir,
je ne sais pas
si à l'époque on pouvait faire ça.
On imagine la fraise de l'époque avec les silex, ça devait être quelque chose quand même de se faire soigner les dents, en tout cas les ossements et les dents, Hervé Guy, qui sont vraiment extrêmement précieux pour les archéologues,
oui.
Parce qu'il y a plein d'informations qui traversent les siècles.
Avant de développer, juste dire qu'on avait aussi un collègue, Pascal Muraille, qui maintenant hélas, ne fait plus d'anthropologie, mais qui avait pu mettre en évidence dans une nécropole du deuxième siècle après Jésus-Christ, justement, aussi un implant dentaire en os, mandibule.
Les exemples sont nombreux quand même. Enfin, ils existent.
Voilà, tout à fait. Alors, pour répondre à votre question sur la dent, effectivement, la dent, si vous voulez, ça enregistre un petit peu tout. Et notamment, ça croît un petit peu comme un arbre. Ça décerne. Et quand, par exemple, vous tombez malade, ou alors si vous avez un trouble psychologique assez fort, la cerne qui va se former à ce moment-là va être irrégulière. Et donc, nous, ça nous permet d'enregistrer, si vous voulez, tous les stress qu'un individu, pendant que ses dents étaient en formation, bien sûr, d'enregistrer tous les stress et qu'un individu a eu à subir, et puis surtout de les compter. Et effectivement, selon les populations, on voit très bien qu'il y a des populations qui ont beaucoup de cernes abîmées et puis d'autres qui ont beaucoup moins de cernes abîmées.
Ouais, les cernes des dents, comme les cernes des arbres, justement, à l'infroment, qui sont aussi des marqueurs alimentaires, parce qu'on peut savoir plein de choses aussi des habitudes de l'individu qui chaussait justement, qui avait ses dents.
Bien sûr. Alors, sur ces anomalies, ce qu'on appelle ces hypoplasies de l'émail dentaire, on peut le faire sur les populations vivantes, puisqu'il suffit que vous regardiez vos dents. Si vous avez eu donc un stress au moment où la dent se formait, que ce soit une famine ou que ce soit une longue infection, effectivement, elle va enregistrer l'information jusqu'à la fin de votre vie, finalement. Mais la dent, c'est le nouvel Eldorado, je dirais, pour les archéologues, et notamment le tartre dentaire. Parce que le tartre dentaire, donc ce petit dépôt minéral-là, il va piéger des résidus alimentaires. Donc vous pouvez amplifier l'ADN de ces résidus, savoir ce que les gens mangeaient comme légumes par exemple, et puis il va piéger les microbes, ce qu'on appelle le microbiote de la cavité buccale, notamment les streptocoques qui sont à l'origine des caries, et cette flore buccale, elle va évoluer selon le temps, selon le régime alimentaire.
Mais le tartre, il peut passer les époques justement comme ça? On peut retrouver encore de très anciens?
Ah oui, alors plus les soins dentaires sont pauvres, plus le tartre est abondant. Il y a des dents qui disparaissent sous le tartre pratiquement. Donc ça, on gratte ça et c'est une mine d'informations.
Et ça, c'est votre bonheur.
Bien sûr.
Oui. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que nos ancêtres, très lointains, essayaient de se soigner et essayaient de comprendre les pathologies dont ils étaient victimes, finalement. Donc, il y avait déjà toute cette recherche autour de leur propre maladie.
Alors, je ne sais pas s'il y avait déjà des médecins à la préhistoire. Il semblerait que oui, au moins des praticiens, comme on l'a cité tout à l'heure, pour exécuter une amputation comme à Butier-Boulancourt, ou alors les différentes trépanations que l'on observe au néolithique. Effectivement, il y avait certainement une école, une école de chirurgiens.
Oui, Alain Froment, donc c'est toute la prise en charge finalement de la santé et du patient aussi,
patient.
On peut parler.
Alors évidemment, nous avons les plus vieux textes médicaux, les écrits hippocratiques, etc., donc à peu près 2500 ans, mais ces écrits-là, ils montrent déjà une science élaborée, donc qui doit hériter de tout un passé proto-historique qui n'a pas laissé de traces écrites, mais qu'on ne peut lire qu'à travers, effectivement, l'étude des squelettes. Et cette étude, bon, on dépasse maintenant la simple étude visuelle, morphologique, pour faire des prélèvements et donc, par exemple, extraire l'ADN. Alors, si on extrait l'ADN d'un squelette, ce qu'on sait faire depuis quelques années, non seulement on a l'ADN du propriétaire, mais on peut avoir l'ADN du microbe qui a emporté le patient.
Alors justement, on va écouter un texte qui raconte la peste au moment de l'Antiquité par Thucydide. C'est lui qui avait écrit justement ce texte. Et c'est incroyable parce qu'on va entendre justement les descriptions des effets de cette épidémie.
Les Péloponnésiens et leurs alliés n'étaient encore que depuis peu de jours en Attique quand l'épidémie se mit à sévir parmi les Athéniens. Pour moi, je dirais comment cette maladie se présentait. Les signes à observer pour pouvoir le mieux, si jamais elle se reproduisait, profiter d'un savoir préalable et n'être pas devant l'inconnu. Il vous prenait soudainement en pleine santé. On avait tout d'abord de fortes sensations de chaud à la tête, les yeux étaient rouges et enflammés. Au-dedans, le pharynx et la langue étaient à vif. Le souffle sortait irrégulier et fétide. Cela avec des malaises terribles. À cela s'ajoutait de façon continue l'impossibilité de trouver le repos et l'insomnie. Le corps, pendant la période active de la maladie, ne s'épuisait pas. Il résistait même de façon surprenante aux souffrances. Aussi, deux cas se produisaient-ils. Ou bien, et c'était le cas le plus fréquent, on mourait au bout de 8 ou de 6 jours sous l'effet de ce feu intérieur sans avoir perdu toutes ses forces, ou bien, si l'on réchappait, la maladie descendait sur l'intestin, de fortes ulcérations s'y produisaient en même temps que s'installait la diarrhée liquide, et en général, on mourait plus tard de l'épuisement qui en résultait.
Voilà, ce texte date donc de 431 avant Jésus-Christ, Alain Froment. C'est assez stupéfiant, non, comme description.
Voilà, ça c'est la fameuse peste d'Athènes. Alors c'est la peste au sens maladie infectieuse, comme dans le mot pesticide. Hein, mm-hmm. Ça ne veut pas forcément dire la peste qu'on connaît maintenant. Mais cette peste, elle a connu ce qu'on appelle des pandémies, c'est-à-dire des épidémies mondiales. Donc il y a celle qui a affecté le bas empire romain, et puis bien sûr celle du XIVe siècle, où là pratiquement le tiers de la population européenne a disparu.
Ouais, on avait des remèdes à ces époques, justement, pour essayer de soigner ces fléaux mondiaux.
Là, il n'y avait non seulement pas de remède, mais on est encore dans une ère où on ne comprend pas la cause, où on va accuser des miasmes, ouais, mais pas la contagion en tant que telle. Donc le lien qui a été fait ensuite avec les rats, avec les puces, etc., ça viendra très très tard. Dans
donc il y a les symptômes, mais la cause, elle est plus compliquée à trouver. Hein.
Oui, et donc, évidemment, il y a tout l'aspect religieux, magique, etc., qui va être mobilisé pour essayer de lutter contre ce qui apparaît comme une sanction.
Nous sommes sur les traces de la santé cet après-midi dans la Tête au Carré avec mes invités Alain Froment, Hervé Guy et vos messages sur franceinter.fr. Painted Back, les Rolling Stones, à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Pour parler de cette archéologie de la santé à l'occasion de cette exposition donc à voir au Musée de l'Homme, Alain Froment, alors parlez-nous un petit peu quand même des collections de restes humains. Déjà, quand on donne ce titre, ça fait un petit peu frémir. Et pourtant, vous avez une très belle collection avec des chercheurs du monde entier qui viennent justement observer ces restes humains. Alors, quand on parle de restes humains, c'est quoi? Des squelettes principalement?
Surtout des crânes, environ 18 000.
18 000 crânes, oui.
Voilà, un bon millier de squelettes. Ensuite, des parties de corps diverses, hein, surtout issues de l'archéologie, mais également des mèches de cheveux, des moulages faits sur le vivant, etc.
Ouais. Des squelettes qui servent le vivant, justement. Hein.
Voilà, c'est la vieille leçon de l'anatomie pathologique. Hein. les morts sont au service des vivants. Et... En fait, le musée de l'Homme hérite d'une tradition qui est celle du Muséum d'Histoire Naturelle, où on faisait de l'anatomie depuis la fondation du Jardin du Roi en 1635. Mmh. La chaire d'anthropologie dérive de cette chaire d'anatomie. Simplement, le message de l'anthropologie, c'est justement de dire, oui, l'anatomie, oui, la médecine se sont bâties sur l'européen, mais l'européen n'est pas le standard de l'humanité.
Ah,
et ce qui compte dans l'humanité, c'est la diversité.
Oui.
C'est pour ça que cette collection de restes humains, elle veut échantillonner l'ensemble des populations du monde, que ce soit celle du passé ou celle du subactuel. Mmh. Et c'est ça la vocation de l'anthropologie. Maintenant, évidemment, ces gens, pour la plupart, ne sont pas morts en bonne santé. Donc, c'est aussi une mine pour
d'informations
étudier,
scientifiques,
bien sûr.
Ouais. Alors, importance scientifique, évidemment. Et puis, problème éthique aussi, lié à cette collection et à ces restes humains. Parce que je me souviens, on a parlé avec vous des têtes maoris, par
oui,
exemple.
Bien sûr. Et c'est là qu'on rejoint, d'ailleurs, les archéologues qui exhument des squelettes, c'est-à-dire jusqu'à quel degré est-il légitime d'ouvrir des tombes ou de conserver des restes humains. Et justement, un des arguments pour défendre l'intérêt de ces collections, c'est de dire qu'elles rejoignent la médecine, qu'elles rejoignent la recherche, et que plus on va loin dans les nouvelles technologies, plus on en apprend sur l'évolution des maladies. Et donc, ça met en perspective toute une histoire médicale de l'humanité.
Ouais. Alors justement, dans ce domaine alors de la paléanthropologie, aujourd'hui, on a la génétique aussi qui vient dire des choses très intéressantes. L'ADN aussi nous révèle des choses inconnues jusqu'alors?
Alors l'ADN va nous permettre d'abord de faire l'archéologie de nos propres gènes, c'est-à-dire tous les gènes qui prédisposent au diabète ou à l'hypercholestérolémie, etc. On va pouvoir maintenant les chercher dans les squelettes jusqu'aux hommes de Néandertal.
Oui.
Et puis dans ces squelettes, donc peuvent aussi subsister donc l'ADN des microbes qui nous ont tués. Par exemple, la momie de Toutankhamon a livré des traces de paludisme. Et puis on a des cimetières de peste donc avec l'ADN du bacille de la peste et des cimetières, notamment les cimetières des Grognards de Napoléon avec l'ADN du typhus.
Ouais. Alors justement, je vous invite à aller en notre compagnie dans les catacombes de Rome, parce que là, il y a des informations aussi très intéressantes. Cet extrait de l'émission Le Salon Noir de Vincent Charpentier sur France Culture, diffusion en 2008.
Le premier travail de l'anthropologue, à partir du moment où il dispose de vestiges suffisamment parlants, est de faire un bilan de l'état sanitaire pour pouvoir éliminer des traces de lésions osseuses qui pourraient donc être le témoignage de coups portés et donc le fait d'un massacre ou d'une guerre. Et du fait qu'on n'ait rien retrouvé sur les os, malgré cette mauvaise conservation, tend plutôt à nous faire pencher vers une hypothèse d'épidémie. Et évidemment, l'enjeu aussi, c'est la paléobiochimie moléculaire, puisqu'on sait depuis quelques années qu'il est quelquefois possible, à partir des résidus dentaires, d'identifier des agents pathogènes responsables d'une crise de mortalité épidémique. Et c'est ce qu'on espère. Il y a eu des résultats assez récents apportés sur la présence du Yersinia pestis au cours des siècles. Et bien qu'il y ait peu de chances qu'il s'agisse d'une véritable peste, on pourra espérer une détection d'un virus de type typhus ou variole.
Voilà, tout ça dans les catacombes de Rome, Hervé Guy, avec Dominique Castex, elle est anthropologue au CNRS. Et là, elle évoquait la paléobiochimie, alors on évoquait la génétique, évidemment l'archéologie. Donc on voit, toutes ces disciplines ont des choses à apporter pour, là aussi, éclairer le passé.
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, il y a la paléogénétique. Je crois que d'ailleurs, vous avez fait allusion il y a peu dans une émission de cette découverte comme quoi l'homme de Néandertal avait apporté au patrimoine de l'humanité actuelle
un
certain nombre de gènes, et notamment dans le domaine des défenses immunitaires.
C'est vrai.
Voilà. Et oui, donc effectivement, nous, on travaille aussi, on fait de la biochimie aussi sur l'os, et notamment, on cherche à travers un certain nombre d'isotopes, par exemple, le régime alimentaire des enfants. Maintenant, on est en capacité de dire, par exemple, à quel âge un enfant a été sevré, par exemple.
Et ça, c'est des informations nouvelles, alors donc, hein, oui, liées c'est... à ces disciplines qu'on n'utilisait pas auparavant.
Tout à fait. Ce sont des recherches, on va dire, qui ont entre 5 et 10 ans. Voilà. Mais ça va maintenant très très vite.
Ouais. Alain Froment, donc on a une mine d'informations là. C'est une redécouverte parce que justement tous ces crânes là qui sont exposés au musée de l'homme, enfin qui sont exposés et qui sont aussi dans vos réserves très précieux et que les scientifiques viennent observer et étudier de très près, justement ces nouvelles disciplines permettent de mieux comprendre aussi ces objets.
C'est pour ça qu'il faut les conserver avec soin pour les générations futures, et donc les considérer vraiment comme des archives. En plus, ce sont nos ancêtres, ce sont les ancêtres de tous les peuples d'aujourd'hui, et donc en les conservant, on va pouvoir réécrire une histoire. Souvent, ce sont des populations où il n'y avait pas d'écriture, tous nos ancêtres avant 3 ou 4 000 ans. Et donc, l'intérêt de ces restes, c'est de sédimenter cette histoire de l'humanité qu'on ne peut pas écrire autrement qu'en étudiant les squelettes.
Ouais, le soin, justement, et l'aide apportée aux patients, les cultures, justement, n'abordent pas cette question de la même façon, Hervé Guy ?
Non, pas du tout, bien sûr, parce que, si vous voulez, pour ne citer que Philippe Descola, divise l'humanité en plusieurs ontologies, on va dire, comme l'animisme, le totémisme, le naturalisme, enfin, voilà, donc on sait très bien que l'environnement, effectivement, pèse aussi sur la manière dont les cultures se sont développées, et donc un même mot n'aura pas les mêmes, on va dire, conséquences, que ce soit en France ou alors en pleine Amazonie. Voilà, et alors, par exemple, moi, il y a un exemple que j'aime bien citer. On parlait de santé mentale. C'est une jeune collègue qui travaille actuellement à Marseille, qui fait une anthropologie du rire. Et elle a pu montrer, lors d'un épisode qui s'est passé en Tanzanie, il y a eu un fou rire dans un collège de filles. Mmh. Et les autorités civiles, médicales et puis coutumières se sont saisies du fait et qui a dû être analysé parce qu'on ne comprenait pas pourquoi ces jeunes filles riaient tout d'un coup. Voilà. Donc et donc on a parlé d'hystérie collective, enfin de mots assez forts. Ouais. En fait, cet anthropologue explique bien que le rire chez l'enfant n'est pas toléré. Ouais. Et effectivement, dès qu'ils se mettent à rire ensemble, ça devient un épisode, on va dire, d'hystérie collective.
Voilà. Épidémie du rire, épidémie en Tanzanie. Tout à fait. Alain Froment, vous qui avez étudié justement l'Afrique et les pygmées de plus près, est-ce que vous avez justement étudié aussi leur façon de se soigner et la façon dont ils s'apportent des soins mutuels ?
Oui, bien sûr. Bien que moi, je ne fasse pas d'ethnomédecine, je ne suis pas botaniste non plus, et les pygmées sont réputés de grands guérisseurs. Mmh. En fait, je pense que ce sont aussi les gens les plus malades que je connaisse, puisqu'ils sont dans la région du monde qui est la plus propice à la transmission des maladies infectieuses, un milieu chaud et humide qui agit comme un incubateur. Donc un pygmée peut avoir déjà au moins 22 parasites, et puis des centaines de bactéries, des centaines de virus, etc. Et leur espérance de vie, là où j'ai travaillé, à l'Est Cameroun, n'est malheureusement que de 24 ans.
Oui, c'est très peu, effectivement. 24 ans. Et le soin par les plantes, uniquement ?
Oui, donc bien sûr, ils se soulagent. Mais pour les grandes maladies infectieuses, pour le paludisme, etc., ils sont assez démunis. Et puis d'autres épisodes, comme les hernies étranglées, par exemple, qui nécessitent des soins chirurgicaux.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une hernie inguinale, donc dans le haut de la cuisse, l'intestin qui va faire saillie et qui va finir par faire une boucle qui va entraîner complète paralysie de l'intestin et une mort rapide dans les 24 heures. Et là, il faut opérer. Ouais. Mais évidemment, il n'y a pas de chirurgie chez les pygmées.
C'est ça. Est-ce qu'ils acceptent les soins venus justement de l'extérieur maintenant ou pas ? Parce qu'ils sont en contact quand même avec les autres populations.
Mais ils sont très demandeurs, au contraire. Ouais. Et nous, évidemment, qui enquêtons pour d'autres raisons, donc sur les virus émergents, sur la génétique, etc., la meilleure chose qu'on puisse faire pour les remercier de participer, c'est de leur apporter non seulement d'ailleurs des soins médicaux, mais également des soins dentaires, puisqu'on promène un cabinet dentaire mobile.
Mobile, ouais, effectivement. Un mot sur la médecine darwinienne, pour terminer, Alain Froment ?
Oui, alors, depuis quelques années, il y a une nouvelle lecture de la médecine. C'est pas une nouvelle médecine, mais c'est la façon de dire, on va injecter un petit peu de pensée évolutive dans la conception médicale. Ça a commencé déjà avec la notion de résistance aux antibiotiques. Ça, c'est quelque chose de très darwinien. Mais plus généralement, c'est de se dire qu'il y a toujours eu une coévolution entre l'espèce humaine et ses pathogènes et que finalement, ça, on est un peu pessimiste, il y aura toujours des nouvelles maladies.
Oui, ça, c'est pas la bonne nouvelle pour terminer cette émission, mais enfin, on le savait quand même a priori déjà. Merci beaucoup à tous les deux, Alain Froment et Hervé Guy. Donc, j'invite les auditeurs qui sont de passage à Paris à aller voir, bien sûr, le Musée de l'Homme en général et puis à s'intéresser en particulier sur cette exposition sur les traces de la santé qui est à voir jusqu'au 24 avril prochain, donc au Musée de l'Homme à Paris. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, dans un instant, juste après les infos, vous retrouverez Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel qui vous proposera aujourd'hui son émission autour de l'affaire Madoff.